Attention, vous écoutez un programme avec un contenu idéologique manifeste. Si vous êtes centriste, apolitique, de droite, bourgeois, capitaliste, ce qui reviendra au même le jour où éclateront les barricades, veuillez changer de station afin de rester heureux et ignorant. L'équipe de la radio ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conflits intérieurs inhérents à la production sonore que vous allez entendre.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le magazine de Canal Sud de ce mardi soir. Et au sommaire ce soir, nous allons parler de la ville. La ville demain, la ville hier, la ville de qui, la ville pourquoi. Demain, la ville, c'est justement la une du nouveau numéro de Friture Magazine, média des possibles dans le Grand Sud. Et on aura le plaisir de discuter avec Philippe Gagnebé, son rédac chef. Et puis on joindra également par téléphone pour le faire réagir sur le sujet Jean-Pierre Garnier, sociologue et urbaniste, auteur de chronique Le Capital dans tous ses espaces et qui avait participé au documentaire Pas lieu d'être dans les années 2000 et qui parlait justement de l'histoire de l'occupation de l'espace public à Toulouse. Bienvenue dans le magazine de Canal Sud. Bienvenue en ville. Mais qui était donc cet étrange et saugrenu personnage qui, il y a plusieurs millénaires, a décidé de clôturer son champ, puis d'y installer son troupeau, de construire ensuite et juste en face son commerce? Celui-ci étant de plus en plus prospère, il lui faut édifier de nouveaux bâtiments, faire venir des ouvriers, des commerçants. Le petit pâté de cabane s'étend peu à peu. Un chemin a été tracé pour relier les habitations. Là-bas, un temple religieux grimpe d'étage en étage. De nouveaux venus, arrivés des plaines, se sont installés au bord de la rivière. Peu à peu, la petite communauté grandit, accueille de plus en plus de monde. Après le chemin, la rue, puis l'avenue. Après la cabane, la maison, suivie de l'immeuble, la ville vient de pousser de terre.
Assimilé. Il reste les heureux bosseurs de l'aérospatial.
Le dimanche sans clean, le matin un jogging, l'après-midi.
Et oui, Zebda, Toulouse, forcément notre ville, la ville rose, elle est un petit pamphlet qui date de 95, l'album Le Bruit et l'Odeur. On est dans le magazine avec Philippe Gagnebé. Salut Philippe.
Bonjour.
Philippe, tu es donc rédac chef de Friture Magazine, média des possibles dans le Grand Sud, basé à Toulouse. Et donc tu as coordonné ce numéro de Friture Magazine, Demain ma ville. Avant de rentrer dans le vif des sujets de fond, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée de faire un magazine sur ce sujet ?
Alors bonsoir et merci pour l'invitation. Et juste pour signaler que Zebda n'est pas présent pour les élections à Toulouse cette année avec les motivés, mais est bien présent dans le numéro de Friture puisqu'on publie des chansons. Je ne sais pas si on écoutera après des Fabius Troubadour
ouais,
et de Zebda.
On a repris la même prog musicale, on ne s'est pas embêté.
Voilà, très bien, très bonne idée. Un numéro sur la ville, ça me semble tout à fait évident. Entre les deux tours de l'élection municipale, on a voulu, comme tous les trois mois, traiter un dossier thématique qui est entièrement consacré donc à la ville de demain, qui rassemble donc des contributions d'universitaires, d'urbanistes, de paysagistes, mais aussi de collectifs, de citoyens, sur une dizaine de thématiques dont on parlera sans doute. Et merci aussi d'avoir cité l'édito, puisque pour parler du futur, il faut savoir toujours parler de l'histoire. Et dans la première partie du magazine, on revient un peu sur l'apparition des villes qui datent maintenant de 5000 ans, qui sont apparues en Mésopotamie et dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, donc, le journal est décliné en 7 ou 8 thématiques.
Bon, on va en parler plus en avant dans un instant et on va essayer de joindre Jean-Pierre Garnier par téléphone. Mais avant ça, je propose aux auditeurs d'écouter un petit extrait qui est passé lundi dans Le Front du Lundi, l'émission connue de Canal Sud. C'était Rico qui était à la manœuvre et il nous parlait un petit peu justement de quelques petites anecdotes qu'il se souvenait en ville. Écoutez-le, ça dure 4 petites minutes et on revient juste après.
Je me souviens de la femme au tailleur rose, Françoise de Vérinas, édile locale ayant eu son heure de gloire nationale par un passage fugace dans un ministère. C'était une des figures de l'équipe municipale sous le règne Gaudis, avec un style autoritaire incomparable. Elle était souvent en première ligne sur des questions de logement et plus généralement sur la ville. C'était le début du grand projet de ville, le GPV. Le grand projet était de mettre encore une fois l'urbanisme au service de la police. Détruire des bars, percer des avenues, restructurer les quartiers populaires pour défaire les solidarités qui s'y tissent, injecter une bonne dose de classe moyenne pour surveiller tout ce beau petit monde. Lors d'une réunion dite d'information, elle avait encore été une fois splendide. Devant la stupeur des habitantes de voir percer une avenue de 4 voies dans leur quartier avec les dangers afférents, elle avait vociféré « Ce n'est pas une avenue, mais une rue, R-U-E !» La bataille du sens se faisait à la serpe, et la municipalité ne prenait pas de pincettes pour imposer ses vues. La dame en rose est morte peu après que la gauche ait repris la gestion de la ville. Elle n'aura donc pas vu le grand bouleversement de la participation. Et oui, fini le style autoritaire. Bienvenue dans une ville où vous, moi, nous, participons à la mise en œuvre de la métropole. La mairie et le Grand Toulouse ont multiplié les réunions publiques, les instances de participation, les ateliers. Ils ont mis en place la fabrique urbaine, poudre aux yeux, langue de bois, pas tout à fait. Enfin, oui, certes, mais c'est peut-être malheureusement un tout petit peu plus que ça. La fabrique réalise un véritable travail culturel de diffusion d'une certaine vision de l'urbain. Ce sont des expositions sur la ville où l'on invite les enfants à imaginer qu'est-ce que serait cette ville. Des ateliers où on invite la classe moyenne à apprendre à penser comme des urbanistes, à comprendre la logique de la gestion de l'intérieur. Et aussi à une véritable agence de pub qui envoie en continu des projets plus ou moins réels vers les médias pour brouiller les pistes. On ne sait plus ce qui se fera ou pas. L'information réelle est diluée dans un flot incessant de propositions. De fait, il ne s'agit de ne plus laisser la place pour un imaginaire indépendant. Saturer l'espace mental avec des images et des mots de la gestion. Dans le même temps, on met au travail tout ce beau monde. On épie leurs réactions, on écoute leurs objections, on prend note de leurs propositions. Non pas dans un processus de prise de décision commune, mais comme dans un filet où l'on remonterait des idées intéressantes pour emballer les décisions des gestionnaires. Et en passant, on mobilise la classe moyenne comme relais de la politique municipale. En faisant partager les façons de penser, les catégories d'analyse, nos dirigeants diffusent à moindre frais leurs soucis gestionnaires. plus question que la populace pense sa vie dans les termes sensibles de son expérience. Il faut qu'elle pense en termes de densification, de fluidité, d'étalement urbain, de prévention situationnelle. Nos rues, nos quartiers, ne peuvent même plus se penser comme les lieux où se déroulent nos existences. Ce sont des éléments d'un tout que nous ne pouvons comprendre qu'en passant par les yeux du pouvoir et de ses experts. Dans le même temps, les projets sont toujours maintenus dans un certain flou et les édiles nous répètent à l'envi qu'ils attendent nos commentaires et nos suggestions pour les boucler. Bien sûr, il s'agit toujours d'opiner sur des détails pour faire passer l'essentiel, mais c'est un véritable processus de mobilisation où nous sommes appelés, presque sommés, à faire le projet. Est-ce que la prochaine étape sera des brigades citoyennes bénévoles pour pousser des brouettes sur les chantiers? Jusqu'où peut aller cette mise au travail des habitantes au service d'intérêts bien compris de la bourgeoisie et de la technocratie? À voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le dispositif est efficace pour étouffer la contestation tout en renforçant le camp de la bourgeoisie en y faisant adhérer les cyclistes blancs issus des classes moyennes.
Voilà, c'était Rico donc qui nous parlait ben, de l'urbanisme et de la ville. Je voudrais juste voir, est-ce qu'on est en ligne avec Jean-Pierre Garnier ?
Moi, je suis là en tout cas.
Bonjour Jean-Pierre, parfait, tout va bien. La liaison est établie. Donc Jean-Pierre, tu es urbaniste et sociologue. Et...
Disons que j'ai une thèse d'urbanisme, j'ai travaillé dans l'aménagement et l'urbanisme aussi bien à Paris au schéma directeur de la région parisienne qu'à Cuba au plan directeur de la Havane. Mais disons que depuis plusieurs décennies, j'étais ensuite enseignant et chercheur dans l'urbain, ou
d'accord.
Sur l'urbain.
Ok. Merci de la précision. Du coup, je voudrais peut-être... on va commencer à détailler les thèmes du journal et puis tu réagiras quand tu voudras.
Ouais.
On va commencer, Philippe. Je te propose de travailler sur un premier thème, la ville participative. On va tourner les pages, on va se tourner vers un article qui m'a bien interrogé, qui est en ouverture, et c'est assez rare pour être signalé. C'est l'histoire d'une ville faite par et pour les hommes. Un article, une contribution d'Yves Rebaud. Alors c'est un chercheur, donc géographe, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, et qui expliquait que, par rapport notamment aux équipements sportifs, il est courant d'entendre que les équipements sportifs sont faits pour tous et qu'ils ne tiennent qu'aux femmes de s'en emparer. On entend dire de même qu'il est de la responsabilité des femmes de s'adapter et non aux nouvelles pratiques de s'interroger sur la discrimination qu'elles provoquent. Le constat, c'est que les femmes ont moins d'emprise sur la ville que les hommes. Ce phénomène n'est jamais pris en compte et les innovations apportées à la ville ne compensent pas, loin s'en faut, ces inégalités. Alors Philippe, si tu veux réagir peut-être sur ce sujet ?
Oui, bien sûr, c'est une des premiers facteurs d'exclusion en fait de certains individus, comme le disait le reportage précédent. On parle aussi de ces phénomènes d'embourgeoisement des centres-villes, de ce qu'on appelle gentrification. Mais il y a aussi des disparitions invisibles dans les villes, c'est-à-dire que les villes appartiennent uniquement aux hommes. Et Vrebeau le dit très bien, les femmes sont exclues de plusieurs postes de responsabilité dans les villes. Il y a très peu de femmes dans les services techniques, il y a très peu de femmes architectes ou urbanistes.
Tu confirmes, Jean-Pierre ?
Oui, j'entends.
Et est-ce que tu confirmes cette idée selon laquelle les femmes sont assez absentes des postes à responsabilité ?
Bah, disons que d'une manière générale en France, plus on monte dans la hiérarchie, quel que soit le domaine, moins la proportion des femmes est élevée. C'est un phénomène général, ça ne s'applique pas seulement à l'urbanisme et à l'aménagement.
Oui, mais on le retrouve aussi, quoi.
Oui, on le retrouve, je veux dire qu'il n'y a pas de miracle. Encore que ça n'est pas pour moi le vrai problème. Je crois que le problème, c'est celui des rapports entre les instances dirigeantes, les gestionnaires, les décideurs et la base. Parce qu'on pourrait imaginer, disons, une société où 50% des femmes seraient à des postes de décision ou de direction, mettons, dans l'aménagement et l'urbanisme. Mais si la hiérarchie se maintient, ça ne sera pas plus démocratique pour autant. C'est un petit peu comme si vous me disiez, Margaret Thatcher a été Premier ministre en Angleterre. On voit ce que ça a donné. Je crois que tant qu'on ne remet pas en cause la division du travail entre ceux qui décident et puis ceux qui n'ont qu'un pouvoir de décision, Moi, je suis par principe, effectivement, pour l'égalité entre hommes-femmes, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que ce sera plus démocratique concernant la prise de décision, c'est-à-dire les rapports entre les classes populaires et les décideurs qui, en général, appartiennent, disons, à la petite bourgeoisie intellectuelle ou à un capital scolaire assez élevé et ont des méthodes de direction tout aussi autocratiques que quel que soit leur siège, quel que soit leur sexe ou leur genre, pour utiliser le terme convenu. Il suffit de voir ce qui se passe à l'université. Les sociologues de sexe féminin sont tout aussi, hiérarchiquement imbus de leur position, si elles ont des postes de direction, que les hommes.
Excuse-moi, Jean-Pierre, de te couper, mais c'est que là, le questionnement, ce n'est pas uniquement sur les postes de direction, mais c'est sur la place dans l'ensemble de la ville des femmes. Et effectivement, quand on regarde l'urbain, il y a déjà toute la question des personnes qui ont peur, la peur des agressions, les zones de danger pour les femmes, parce qu'elles elles sont en danger face à des hommes qui peuvent se comporter comme prédateurs sexuels parfois, et aussi des zones de ville qui sont, ou des équipements sportifs qui sont conçus exclusivement pour des hommes, parce que c'est des pratiques attribuées aux hommes, etc. Et donc c'est surtout ça, c'est que la ville qui est faite peut-être aujourd'hui, non seulement elle n'est pas faite par des femmes, mais plus encore, elle n'est pas faite pour les femmes. Tu vois, c'est plus sur ce sujet-là.
Oui, mais moi, comme étant donné que vous parliez de la fabrique de la ville, qui fabrique la ville et au profit de qui, je ne voyais pas ça d'abord à partir du genre, je voyais ça à partir de la division du travail entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent.
Oui, pour préciser, hein, Jean-Pierre, nous, on a donné la parole à des chercheurs qui se sont exprimés sur des thématiques. On parle évidemment de la démocratie participative, de l'accès au pouvoir, des phénomènes de classe. Mais il y a quand même un fait qui est évident, c'est que la femme n'est pas à sa place dans la ville. Elle n'est pas au poste de responsabilité. Elle a peur, elle est agressée. Et puis un chiffre tout bête par exemple, mais 80% des déplacements en vélo en milieu urbain se font par des hommes. Ça semble anecdotique, hein, mais c'est un premier constat intéressant, je pense.
Alors, vas-y Jean-Pierre.
Oui, là c'est un problème qui n'est pas spécifiquement urbain.
Ça c'est vrai.
Que le règne des, comment dirais-je, de la force masculine n'a pas été remis en cause de manière fondamentale. On s'en tient toujours à des principes généraux, et s'il y a des hommes qui agressent les femmes, ça c'est un phénomène qui ne relève pas de l'urbanisme et de l'aménagement, sauf à faire un urbanisme sécuritaire, où là, on tout serait organisé pour que les femmes puissent circuler sans risquer d'être attaquées. Mais là, il faudrait plutôt s'attaquer aux causes. C'est-à-dire, c'est un problème qui remonte quasiment, qui va dans les médias, dans l'éducation scolaire, l'éducation dans les familles, etc. Mais si on raisonne en termes urbains, comme vous le pensez, c'est pas parce qu'on fera une ville complètement bunkerisée avec des zones finalement qui seraient réservées, on pourrait dire quasiment réservées aux femmes, protégées, on aurait des caméras de vidéosurveillance, il y aurait des gardes et tout ça. Je vois pas exactement, je trouve que c'est pas ça la solution.
Ah, ça
la
c'est
solution,
clair,
c'est de faire plus, en sorte c'est... que l'agressivité masculine soit neutralisée dans le cadre éducatif et dans le cadre médiatique.
Je crois qu'on sera tous d'accord là au moins sur ce que tu viens de dire. Mais tu évoquais justement les divisions de classe. On parlait là donc du premier sujet, participer à la ville, et j'entrais par cette porte parce que je pense que c'est pas souvent qu'on parle de sujet, mais effectivement la participation dans la ville, c'est un grand mot, on en parle beaucoup partout. Je me rappelle à Toulouse d'avoir assisté aux assises de la participation citoyenne, d'avoir participé à des débats où tout le monde était pour la participation, mais concrètement, les décisions prises n'ont pas évolué fondamentalement. Et c'est souvent un peu un miroir. Philippe, qu'est-ce que tu peux me parler un peu sur cette participation ?
Oui, évidemment, vaste sujet. Premier chiffre à donner, on est entre les deux tours des élections. 50% des personnes ont voté dimanche à Toulouse. On peut en discuter, on peut dire que c'est une catastrophe, on peut dire que c'est un signal fort. Il se trouve que malgré tous les discours sur l'accès à la citoyenneté, à la démocratie, les gens ne votent plus. Voilà, donc premier point. Seconde chose sur laquelle je pense Jean-Pierre pourra s'exprimer, c'est que au temps d'Athènes ou de Rome, on connaissait les agora et les forums qui fonctionnaient plutôt bien, d'après les écrits qu'on en a. Force est de constater aujourd'hui qu'il est difficile de participer à la vie de la cité via des débats, via des maisons de quartier, via des maisons de citoyenneté. Alors, il se dit qu'à Toulouse, les gens au pouvoir ont entendu des revendications et surtout ce signe absolument extraordinaire de 25% seulement de participation au vote dans les quartiers comme le Mirail ce week-end. Il serait peut-être temps de mettre de nouveaux outils en place.
Jean-Pierre ?
Bon, alors, on a, avec ce phénomène de l'abstention grandissante, et quand je dis abstention, il faudrait aussi y ajouter les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales.
Et il y en a beaucoup.
Oui, c'est 12%. Et si on va vers les moins de 30 ans, en âge de voter, on arrive à peu près à 18%. Autrement dit, il y a ce qu'il est convenu d'appeler, du moins à Sciences Po, ce qui n'est pas une référence, mais c'est le terme officiel, une crise de la démocratie représentative. Hein, c'est-à-dire la délégation de pouvoir à des professionnels de la politique, ça ne marche plus comme avant. Ça n'est pas propre à la France. Hein. C'est valable en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, etc. C'est-à-dire que la plupart des gens, notamment dans les classes populaires, savent que, quels que soient les gens pour lesquels ils votent, globalement, ils n'ont pas voix au chapitre, et les grandes décisions, les décisions importantes, par exemple le choix de jouer la carte de la métropolisation dans le cadre de la concurrence libre et non faussée entre métropoles françaises, voire entre certaines métropoles françaises et métropoles européennes, tout cela ne les concerne pas. Hein, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, c'est ça le plus beau, c'est qu'en haut, on se rend compte que les gens ne marchent plus. Et alors, on commence à élaborer d'en haut, avec l'aide évidemment de politologues, de sociologues, des mécanismes de participation pour inciter les gens à participer. Or, en fait, l'alternative à la démocratie représentative, c'est pas la démocratie participative, octroyé d'en haut avec des mécanismes qui, plus la décision est importante et moins la participation a d'importance, l'alternative c'est ce qu'on appelle dans certains milieux la démocratie directe. Hein, il y en a d'autres qui parlent d'autogouvernement, vous voyez. C'est-à-dire c'est une remise en cause totale de ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie chez nous, quoi.
Mais comment on mettra en place, par exemple, je pense un exemple à Toulouse, mais à Grenoble, à Paris, comment on met en place concrètement, là, allons-y, mettons en place une démocratie directe municipale. Comment on mettra en place ça ?
Une démocratie directe municipale supposerait déjà la remise en cause totale des institutions de la Ve République.
D'accord.
Bon, ça veut dire
c'est une petite révolution, quoi.
Ça serait dans une situation comme ça s'est produit dans les périodes, je dirais, insurrectionnelles, révolutionnaires, de soulèvements populaires, où effectivement, les organismes qui décident habituellement, les institutions qui font tourner la boutique, si je peux dire, sont désavoués par la population, mises à l'écart, et que la population est dans une situation d'auto-organisation, de mise en place de mécanismes nouveaux. Je ne vais pas citer quand même la commune de Paris, mais enfin...
Ah bah, Philippe l'avait cité dans un demi-souffle.
Ouais. il est bien évident que la mise en place d'une démocratie directe, ça voudrait dire que Vinci, Bouygues et Fage ne feraient plus la loi concernant l'organisation de l'espace. Que les technocrates issus de Polytechnique ou de l'école des ponts ne feraient plus la loi en matière de décision. C'est-à-dire qu'on aurait véritablement un bouleversement réel, mais ça ne serait pas une démocratie dite participative, où c'est par exemple en ce moment le ministre de la Ville qui donne une mission à Madame Marie-Hélène Baquet, sociologue, et puis un leader associatif en voie de notabilisation, le soin de mettre en place des mécanismes sous l'égide d'un ministère. Hein, vous savez, il y a un vieux proverbe, sociologue anarchiste, qui date de la fin du 19e siècle, qui est belge, et c'était « je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, il décide ». C'est toujours la même chose. Faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. On a multiplié, l'expression populaire, depuis des années, Moi, je suis d'une génération qui est connue déjà, qui a connu l'époque où les partis de gauche, et notamment il y avait un parti qui s'appelait le PSU, le Parti Socialiste Unifié, celui justement dont est issu un maire qui a poussé le plus loin en France la démocratie participative, Hubert Dubedoux, Grenoble, avec les groupes d'action municipaux. Mais il faut bien dire une chose, que l'expression populaire a toujours été instrumentalisée, pour ne pas dire domestiquée, par les municipalités. Alors aujourd'hui, on met en place sans arrêt des nouveaux mécanismes, commission, là des anciens, commission extra-municipale, assemblée, réunion citoyenne, à condition que tout le monde donne des avis constructifs, c'est-à-dire qu'on accepte les termes de la question posée, et puis naturellement, il y a toujours des experts qui sont chargés de formuler les questions à la place de la population. Hein, c'est toujours en fait ce qui est visé, c'est l'acceptabilité des décisions déjà prises, des grandes orientations déjà prises par la population. Et en fait, tout cela relève de la manipulation. D'ailleurs, les mots qui sont utilisés sont très clairs. Très souvent, on voit le mot « dispositif ». Il faut mettre en place des dispositifs participatifs. Il y en a d'autres, au ministère de l'Intérieur, ils disent qu'il faut mettre en place des dispositifs de maintien de l'ordre. Ça, c'est autre chose, c'est policier. Et là, on a des dispositifs, en fait, qui induisent la bonne volonté et la soumission. C'est-à-dire que les gens qui participent, non pas aux décisions, mais aux mécanismes de participation, c'est le second degré, doivent penser dans le cadre institutionnel et conceptuel où on leur dit de penser.
Mais justement, mais alors là, le parallèle était éloquent, mais dans le Mur de friture, on a justement un article écrit par Marie-Christine Jaillet.
Oui, et je la connais. Elle a travaillé pour l'OTAN jadis aussi, dans le comité des défis majeurs, avec un autre sociologue, pour comment juguler les insurrections dans les métropoles du 21e siècle.
Mais ce qui est intéressant...
Elle est vraiment bien placée pour parler de participation.
Mais justement, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'elle est même à Toulouse actuellement, en plus de toutes les fonctions que tu as énumérées, que je n'avais pas à l'esprit, elle est nommée présidente du conseil de développement de Toulouse Métropole depuis avril 2013.
Ah voilà, vous avez compris.
Et attends.
C'est le stade suprême de l'urbanisation.
Mais justement, Jean-Pierre, attends, on va venir à métropolisation juste après. Mais elle-même, qui est donc à ce poste, dit « Il reste à ce que les citoyens puissent exercer un contrôle démocratique sur un échelon, donc elle parle de la métropole, qui, sinon, risque de n'être que technocratique. » Donc, si tu veux, j'ai l'impression que eux-mêmes, ceux qui mettent en place ces structures, en sont conscients.
Alors, ils sont parfaitement conscients, mais le rôle des sociologues, je vais citer un autre sociologue, évidemment, il n'est pas de la même orientation que Marilène Baquet ou la géographe Marie-Christine Jaillet, il est chez vous. C'est Mathieu Rigouste.
Oui.
Vous en avez entendu parler.
Ah, bah oui, on le connaît
vous
bien à Toulouse.
Il écrit dans son dernier ouvrage, La domination policière, de la même manière, c'est Yves Lacoste, un autre géographe, qui avait dit « La géographie, ça sert à faire la guerre ». Et lui, il dit la sociologie, ça sert à contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ils savent très bien que la métropolisation va être encore un pouvoir encore plus centralisé, où, somme toute, un certain nombre d'aires centrales des grandes agglomérations vont concentrer toutes les fonctions de décision, de direction, de commandement du capitalisme, on peut dire aujourd'hui transnational, parce que c'est plus seulement à l'échelle française, ça veut dire les quartiers généraux, les états-majors des firmes, on va mettre tous les services afférents, juridiques, la publicité, le conseil, les habitants, naturellement l'habitat de standing et de luxe réservé au cadre de la nation, plus les équipements haut de gamme, hein, pour ce qui se distrait, les médiathèques, les opéras, les auditoriums, les salles de colloque, et tout ça, évidemment, va être centralisé dans les aires centrales, avec évidemment des pôles dits d'excellence un peu en périphérie, et bien entendu avec un rejet croissant des couches populaires dans ces périphéries, et bien entendu, il faut faire avaler tout ça à la population. Comment ? Alors, bien entendu, il y a un mépris très net de la part de ces élites. Je parle pas de la bourgeoisie seulement, de la classe dirigeante, mais de ces intermédiaires, de la petite bourgeoisie intellectuelle, de ces élites intellectuelles, qui notamment sont nichées dans tous les organismes de planification, à l'université, dans les centres de recherche, les laboratoires, qui vraiment prennent les gens pour des imbéciles. Les gens savent très bien que tout se fait pas pour eux, et quelquefois contre eux, notamment en matière de ségrégation résidentielle.
Jean-Pierre, je voudrais laisser réagir aussi Philippe sur ce que tu viens de dire, qui est dense et important, mais laisser l'auditeur aussi emmagasiner le tonne d'informations que tu as donné. Donc Philippe, je te laisse répondre, et puis on marquera une petite pause musicale pour décanter tout ce qui a été dit et reprendre en étant bien à l'écoute de toutes ces questions qui sont vachement centrales, parce qu'on n'entend jamais parler. Philippe,
oui.
Vas-y.
Oui, donc déjà, un petit regret, c'est de ne pas avoir invité Jean-Pierre Garnier à s'exprimer dans le numéro, sauf que nous, on fait parler que des gens qui sont sur ce territoire du Grand Sud-Ouest. Mais on connaît bien Jean-Pierre Garnier, puisque je pense qu'on va en parler, il avait participé il y a une dizaine d'années à un documentaire qui s'appelait Pas lieu d'être, qui ouais. était extrêmement intéressant. Donc juste deux ou trois petites remarques. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Pierre sur notamment les phénomènes d'exclusion, etc. Pour ce qui est de l'autogestion, moi je veux bien qu'on remonte à la commune, je veux bien qu'on cite des exemples sur Longomile par exemple, qui sont des expérimentations qui marchent encore, ou pour ce fameux village espagnol. Voilà. Mais bon, je pense que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Peut-être faudrait trouver d'autres échelles sur la métropole. Juste une autre petite chose sur l'abstention. Moi, je pense qu'il y aura des leçons à tirer, mais je pense que les politiques vont les tirer. Enfin, on espère toujours de ce taux d'abstention. C'est du jamais vu. Je pense que c'est extrêmement grave, que c'est vraiment extrêmement grave. Et juste un petit point pour citer une personne qui est issue du PSU et qui s'exprime aussi dans nos colonnes. Il s'agit de l'écrivain et chercheur Paul Auriol, qui est de Carcassonne, et qui met en avant une chose dont on ne parle pas souvent, c'est le droit de vote des résidents étrangers ou extra-communautaires à ces élections. Je pense que c'est une erreur, une nouvelle de la part du pouvoir de ne pas avoir mis en place ce vote à ces élections-là, parce qu'on le voit très bien, et sans stigmatiser ces quartiers dits populaires, on sait très bien que ces quartiers concentrent des résidents étrangers et très précaires. Et ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait seulement 20 ou 25% des gens qui votent dans ces quartiers-là.
On fait une petite pause musicale. Jean-Pierre, tu restes avec nous et on continue.
Je reste l'oreille au téléphone.
Voilà, tu vas étendre la petite chanson et puis on revient après sur la métropole et que faire contre elle. A tout de suite sur Canal Sud, on s'écoute. Les Malpolis, ma ville est la plus belle des villes. C'est aussi dans le numéro de Friture. Pour aussi arrêter avec ce petit chauvinisme toulousain qu'on a tendance à parfois faire.
Oh, c'est pas grave, hein, j'ai vécu à Toulouse assez longtemps. C'est une des villes sur le plan de l'ambiance, c'est ce qui reste quand même. La métropolisation, tant que ce dit, on en parlera, gomme toutes les spécificités locales des villes.
Allez.
Ils deviennent de plus en plus interchangeables. D'abord, c'est les mêmes technocrates qui sont à la tête, je voudrais vous en dire longtemps.
Allez, on continue juste après.
Souvenir nous attache à ces lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part. Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux. Y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains. Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle. C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés. Mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure. Même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y'a la même enflure. La même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme ça crée du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. Par un bois de l'alcool,
oh il joue au football.
Bah tu parles d'un particularisme régional. Pour les causes, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point.
Les Malpolis sur Canal Sud 92.2, canalsud.net. Nous continuons à causer de la ville, justement la plus belle des villes et bientôt la plus belle des métropoles. Et je sais, Jean-Pierre, que tu es intarissable sur le sujet. Je voulais juste passer un petit extrait pour faire une pause. Mais nous allons, rassure-toi, parler de la question de la métropole plus en avant et de toutes les logiques que ça induit. À Toulouse, nous, on est confronté à Toulouse Métropole avec un échange de dialogue métropolitain qui irait de Montauban à Castres d'un côté et de l'autre côté de Auch et puis au sud quasiment jusqu'à Saint-Gaudens. Enfin, des territoires immenses qui engloberaient de l'urbain, du rural et qui seraient des immenses structures, tu l'as dit, technologiques. Technocratique. Est-ce que tu peux nous remonter un peu à l'origine de ce qui a fait ces métropoles ?
Bon, je ne vais pas remonter à l'Antiquité.
Non, sans aller jusqu'à Rome, mais...
La chose, c'est que le mot métropole avait très mauvaise presse au début du XXe siècle, parce que c'était synonyme de robotisation, d'entassement, d'anonymat, etc. Il y a eu un film qui avait joué un rôle là-dedans, qui était Métropolis de Fritz Lang. On montrait quand même des gens qui étaient complètement mécanisés, avec une hiérarchie, les ouvriers en bas dans les quartiers inférieurs, l'élite en haut, etc. Le mot métropole a eu est réapparu de manière positive, enfin positive pour ceux qui l'ont lancé. C'est à l'époque du général de Gaulle où il fallait lutter contre l'omnipotence de Paris par rapport à ce qu'on appelait à l'époque, un géographe appelait ça le désert français. Et on disait qu'il faut rééquilibrer l'aménagement du territoire en aménageant des métropoles d'équilibre. Et un certain nombre de très grandes villes ont bénéficié de politiques de décentralisation, des établissements universitaires, des laboratoires, de centres de recherche, d'activités. Et ça a été à ce moment-là que le mot métropole est devenu un mot à la mode. Puis après, ça a changé. Avec Giscard d'Estaing, on a dit que c'était les petites villes et les villes moyennes qui devaient être favorisées pour éviter la congestion des très grandes villes. Il fallait un urbanisme, c'était le mot à la mode, un urbanisme à la française. Et puis la gauche revient au pouvoir et c'est reparti avec les métropoles, et non d'abord les technopoles, ça a été le truc à succès, vous savez, le triptyque enseignement supérieur, laboratoire, industrie innovante, et à partir des années 90 vient maintenant l'idée de la métropolisation. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait un phénomène typique du capitalisme, et pas seulement en France, dans son inscription spatiale, c'est la polarisation à la fois spatiale et sociale des activités, je l'ai dit tout à l'heure, de direction et de commandement, avec toutes les activités annexes, les services qui complémentaires, avec la population qui va avec, avec, je l'ai dit, les équipements collectifs, mais réservés à une élite, et l'espace classique des centres-villes ne suffit plus. Désormais, l'échelle, la ville même ne suffit plus. C'est l'agglomération, voire le pourtour de l'agglomération.
Et alors justement, pour vous parler de ça, je voudrais aborder deux aspects. Ouais. D'abord, revenir sur... On a de la chanson qui date des années 90-2000. Je crois que c'était au début des années 2000. On a parlé tout à l'heure du documentaire auquel tu avais participé, documentaire de Philippe Linière, qui s'appelait « Pas lieu d'être » et qui, justement, examinait les questions d'urbanisme, et notamment à Toulouse. Et au travers d'un aspect précis, c'était les banques publiques, la disparition progressive des bancs publics dans le quartier Arnaud-Bernard à cette époque-là, et dans le quartier Saint-Cyprien. Et on voit qu'effectivement, on a d'un côté cette ville-centre avec qui devient un espace simplement de passage, et de l'autre côté, et on va en parler juste après, une zone périurbaine qui est là complètement ignorée, qui est complètement délaissée, y compris par les sociologues et les enquêtes démographes, etc. Il n'y a pas d'études sur qui vit là-dedans, ou peu d'études. Alors, je voulais commencer par cette question du banc public et de l'espace urbain, assez brièvement, si tu peux, pour qu'on ait le temps d'échanger avec Philippe.
Alors, là, c'est encore une autre préoccupation, mais qui est liée à un contexte général. C'est-à-dire que les espaces urbains, considérés comme les hauts lieux de l'urbanité, c'est-à-dire dans les parties les plus prestigieuses et les plus attractives de la ville, aussi bien pour les investisseurs. On dit dans le langage technocratique, on ne dit pas capitaliste, on dit investisseur. Et pour la matière grise qu'il s'agit d'attirer. Alors la matière grise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle, les enseignants, les cadres, les chercheurs, les créateurs et créatifs en tout genre. Eh bien, il faut que cette partie centrale des villes soit avenante, soit attirante, et que, somme toute, tous les gens qui ne sont pas solvables, parce que ces parties centrales sont des parties réservées généralement à des établissements, des cafés, des commerces, avec qui s'adressent à des couches aisées, avec des revenus conséquents, tous les gens qui ne sont pas solvables sont considérés comme des indésirables.
Hein, c'est exactement ce que...
Il y a eu le titre d'un film sur ce sujet, du nettoyage, on peut dire, socio-ethnique des espaces publics centraux des grandes villes pour les réserver, je le répète, aux élites, quelles que soient, bourgeoises ou néo-petites bourgeoises, sans parler des touristes, avec expulsion de facto des populations qui sont jugées encombrantes, nauséabondes, pas décoratives, suspectes de délinquance. Alors, c'est les prostituées, c'est les sans-papiers, hein, c'est les chômeurs, c'est les jeunes de cité. Et pour cela, évidemment, les endroits pour pouvoir... le centre-ville doit être un centre où on peut... rester, on peut s'asseoir à une terrasse de café, là faut payer, mais un banc par définition, ça peut accueillir un clochard, donc c'est pas bon, on supprime le banc. Hein.
Philippe peut-être bon, réagir.
Dans ce film dont vous parlez, la municipalité de Montpellier, qui à l'époque était dominée très largement par Georges Frêche et ses hides, ont entamé toute une politique pour dissuader les zonards, alors notamment la zone, les punks à chiens, de séjourner place de la Comédie, par une fois un exemple très clair. Hein, c'est une place, la place centrale, hein, l'écusson, comme on disait.
C'est le capitole de Montpellier.
Voilà, Montpellier, je prends l'exemple que je connais bien. Il y avait une fontaine avec un bassin autour, une margelle, bien entendu. Les zonards avec leurs chiens, les chiens se baignaient, quelquefois les zonards eux-mêmes, dans la fontaine, s'asseyaient à boire des bières sur la margelle. Bon, mais c'est très simple. On a fait une on appelle ça, à chaque fois que vous entendez requalification urbaine, ça veut dire une chose. On va réserver le genre, le centre, l'espace considéré, à des gens de qualité. On a supprimé la margelle, on a supprimé, la fontaine a été transformée, en haut il y avait trois statues, elles sont restées. On a mis un éboulis de rocher où l'eau dégoulinait dessus.
Et on peut plus s'asseoir
sur un éboulis de rocher parcouru par de l'eau. Alors les gens se sont déplacés.
Philippe peut-être intervenir sur ce sujet.
Oui, donc c'était, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. La municipalité de droite à Toulouse avait interdit les bancs au SDF avec un système très facile, c'est qu'ils mettaient une barre de fer en travers des bancs pour éviter que les gens s'allongent. Les gens, ce ne sont pas les gens en général, ce sont évidemment les SDF. Ensuite, à Toulouse, avec un peu la réorganisation récente de l'urbaniste hein, qui a refait Barcelone, Joan Busquets, les bancs sont redevenus normaux et on peut s'allonger sur les bancs et l'accès aux fontaines, pareil. Je voudrais juste revenir un peu sur la question de la métropole. Pour information, Toulouse Métropole, qui passera sous la forme juridique au 1er janvier 2015, c'est 37 communes et c'est 6 ou 700 000 habitants. Qui sera dirigée donc par un conseil communautaire. Je rappelle aussi que dimanche, on le sait peut-être pas, mais on vote aussi pour pour élire les conseillers communautaires. Et troisième petite chose, Pierre Cohen, qui est maire de Toulouse, est actuellement président de Toulouse Métropole. On se demande ce qui va se passer au 1er janvier 2015, si c'est la droite qui est élue, ça risque d'être un maelstrom incroyable. Et juste dernière remarque, moi je suis assez d'accord avec l'analyse, mais je ne pousserai pas jusqu'à l'analyse politique de lutte des classes de Jean-Pierre, mais le phénomène de métropolisation qui est récent, et qui est, on va le dire comme d'habitude, un copier-coller de ce qui se passe aux États-Unis, est évidemment en lien très direct avec les formes de production, mais on s'aperçoit quand même que même si Toulouse grossit beaucoup, et va vers cette forme de métropolisation, les villes moyennes de la région grossissent aussi. Et tout ça, c'est lié quand même à un phénomène de désindustrialisation. On connaît les bassins miniers, sidérurgiques, on connaît l'histoire de Carmo ici ou de Albi. On sait que ces villes ont eu beaucoup de mal à survivre à ces problématiques. Et on adapte aujourd'hui, là je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre, ce phénomène de métropolisation aux nouvelles technologies, hein. On travaille plus de la même façon, on essaye d'installer en centre-ville ce qu'on appelle des clusters, des fab labs, ce sont les nouveaux mots à la mode.
Surtout un usage renforcé, ça fait scientifique, puis ça impressionne, d'un vocabulaire importé des États-Unis.
Tout à fait, moi je pense que comme d'habitude on est à la ramasse des États-Unis, on fait ce qui s'est passé il y a 50-60 ans aux États-Unis.
Tu parlais justement d'industrialisation, désindustrialisation. Deuxième pause musicale et après on va terminer en roue libre jusqu'à la fin. Mais oui, mine de rien, les villes, il y a aussi eu des villes. Les villes, c'était aussi les usines, c'était aussi le monde ouvrier. Et il y en a qui ont bien chanté ça. On s'écoute The Spinners, Dirty Old Town.
I found my love by the gasworks croft, dreamed a dream by the old canal. Kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the dock. Saw a train set the night on fire. Smell the spring on the sulphured wind. Dirty old town, dirty old town.
Dirty Old Town, The Spinners, et non, ce n'est pas The Pogue. The Pogue ont repris The Dubliners, qui ont eux-mêmes repris The Spinners, et cette chanson est une chanson sur une ville ouvrière en Angleterre. On continue sur Canal Sud à parler de la ville et de ses mutations et de ce qu'elle sera demain avec Jean-Pierre Garnier, qui est toujours là au téléphone. Désolé, hein, Jean-Pierre, c'est les aléas du direct et d'une émission qui ne dure malheureusement qu'une heure. Je voudrais peut-être, je pense qu'on n'a pas pu tout aborder, mais je voudrais aborder une question quand même avant la fin. C'est une question qui est tout simple, c'est qu'est-ce qu'on fait contre ces logiques capitalistes, ces logiques commerciales, ces logiques plutocratiques ou élitistes? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans Friture, bah, c'est une tradition, c'est qu'il y a toujours une partie qui parle des possibles. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui se fait de possible aujourd'hui? On n'est pas dans l'autogestion totale, on n'est pas dans un système de révolution tout de suite, il faut le dire, c'est clair. Mais il y a des petites portes qui arrivent et des idées, et notamment une idée qui prend son chemin en ce moment, c'est celle des coopératives. Alors Philippe, tu peux nous parler de ce monde des coopératives?
Oui, alors là, on a une fois de plus donné la parole, hein, parce que nous, on ne s'exprime pas dans ce numéro, à un chercheur, c'est Jacques Prade, qui dirige le Master d'économie sociale et solidaire au Mirail, et qui voit face à cette mégalo-ville de demain... des solutions dans un secteur qui lui tient à cœur, c'est celui de l'économie sociale et solidaire et celui des SCOP. Donc il présente les 3 ou 4 handicaps qui se présentent à nous, donc évidemment le pic du pétrole, la place de la bagnole, etc. Et essaie de mettre en place un système de coopération dans les villes, que je vous invite à découvrir dans le numéro, hein, je ne vais pas le décrire là, mais essayer d'adapter un peu, et c'est là où on rejoint un peu Jean-Pierre, mais peut-être pas sur des formes d'autogestion, le modèle de la société coopérative à une ville coopérative, donc avec plein de dispositifs sur les marchés, sur la disparition des supermarchés. On sait aussi que les supermarchés sont des points de repère dans les villes très importants, hein, c'est l'hyperconsommation qui détermine un peu la construction de ces villes. Donc Jacques Prade met en avant des systèmes de coopération, les circuits courts, les débats citoyens, etc. Mais je vous invite à le découvrir dans le magazine, je ne veux pas être trop long, et peut-être rebondir avec Jean-Pierre sur cette question de l'autogestion, quoi.
Mais justement, alors, juste avant, moi je me rappelais d'un article qui est paru il n'y a pas longtemps dans Friture, qui parlait de la coopérative intégrale toulousaine, qui est une coopérative mais qui essaie d'allier la question de l'emploi, la question de l'alimentation, la question de l'habitat, et donc des formes presque d'autogestion, là on serait.
Oui, la coopérative intégrale se réunit depuis un peu plus d'un an à Toulouse dans un lieu très connu de symbole d'autogestion, c'est la chapelle. Ils ont beaucoup de mal. On les a pas trop entendus là pendant les élections, je trouve ça dommage. Mais ils ont des projets d'autogestion ou coopératif dans des centres urbains.
Jean-Pierre, peut-être un mot sur ces coopératives?
Le problème des coopératives, il est bien évident que, bon, on peut appeler ça autogouvernement, autogestion, auto-organisation.
Ça ne gênera pas l'auditeur de Canal Sud.
Ouais. Il est bien évident. évident que à chaque fois que des expériences de ce genre ont été mises en place, effectivement, ça toujours c'est resté premièrement extrêmement minoritaire. Ça ne remettait pas en cause la logique globale de l'urbanisation, qui va dans le sens croissant de la dépossession des habitants sur la maîtrise de leur cadre de vie. Alors effectivement, on peut trouver ici et là, bon, moi j'étais il n'y a pas longtemps, je suis lié à des universitaires et surtout des anarchistes à Barcelone. Barcelone, vous avez pas mal d'endroits où il y a des coopératives. Alors pour le logement, c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, le logement autoconstruit existe en certaines périphéries, mais à Barcelone, ça se passe exclusivement, quasiment, en termes de squat et d'occupation. Soit de logements vides, ou soit d'anciennes usines, d'anciens ateliers, d'anciens entrepôts. Et là, avec l'appui des gens du quartier, c'est ça, ce qui est intéressant, ce ne sont pas des îlots, j'allais dire, d'anars ou de gauchistes isolés comme ça par rapport à la population. La population résidente de ces quartiers trouve très bien que dans ces lieux-là, il n'y ait pas seulement des solutions au logement, mais également des activités auto-organisées, aussi bien pour les enfants, l'initiation à la peinture, des concerts de musique, des repas collectifs, des fêtes organisées. Mais il est bien évident que, pourtant Barcelone, on pourrait dire, est la capitale des squats européennes, en Europe, ce sont des mini-réalisations qui sont en fait dans des poches de permissivité. Bien entendu, si la municipalité et le gouvernement régional décident un jour de les virer, en général, c'est comme ça que ça se passe. En France, on ne compte plus les expulsions de squats artistiques, pour prendre un exemple. Sauf lorsque ces squats artistiques sont un moteur dans certains quartiers de la gentrification, c'est-à-dire colonisation des quartiers anciennement ouvriers par cette nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle.
Mais justement,
le squat peut donner effectivement un coup d'envoi parce qu'il s'y passe des choses différentes en termes de musique, en termes de festivals de cinéma, etc.
Oui, et Philippe, vas-y.
Plusieurs types de squat. Hein.
Jean-Pierre, pour donner l'exemple toulousain, celui qu'on connaît le mieux, c'est l'exemple de Myris qui est en voie de légalisation, on va dire, dans un quartier qui s'appelle la Cartoucherie, puisque Myris aura l'an prochain des locaux flambant neufs. Et dans la même logique, le seul projet d'habitat participatif à Toulouse est mené par la mairie, directement par la mairie, dans le même quartier de la Cartoucherie. Il existe à Toulouse deux ou trois squats encore vivants, le quai Saint-Pierre, et le seul exemple d'habitat participatif citoyen qui marche et qui tourne à Toulouse, il est à Ramonville, ça s'appelle Mange-Pomme, où il y a des gens qui se sont battus depuis 20 ans, il y a une quinzaine de familles qui s'est rassemblée et qui fonctionne comme à Barcelone, qui est un très bon exemple, je suis d'accord.
Mais alors là, je te réponds, Philippe, parce qu'à Toulouse, on a la CREA, la campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion, qui ont mis en place...
Qui s'exprime dans le journal.
S'exprime dans le journal via les habitants de la réquise. Il y a une tribune, justement, de ceux qui... l'habitant de la réquise du quai Saint-Pierre, qu'on a invité souvent à Canal Sud. La CREA, qui a expérimenter un centre social, un centre d'accueil pour des personnes, y compris sans emploi, sans papier, et qui a très bien marché, qui avait vraiment des modes de fonctionnement horizontaux intéressants. Ce qui l'a freiné, c'est que tout simplement, il y a eu les expulsions, et il y a eu 15 expulsions successives.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est systématiquement
le contrôle de la municipalité. Il laisse faire, si c'est quelque chose, je le répète, qui n'est pas trop politique, qui est culturel, qui permet de redorer l'image d'un quartier. Hein, à Paris, c'est la même chose, ailleurs à Strasbourg aussi. Non seulement on laisse, mais on finit même, on voit des municipalités qui financent des expériences d'autogestion culturelle parce que ça donne une image branchée.
Mais aussi parce qu'ils aiment, parce que c'est intéressant peut-être aussi.
Le cas de Créa, c'est l'inverse. Hein, c'est quelque chose qui remet en question la propriété, qu'elle soit privée ou d'État. C'est l'auto-organisation complète. En plus, ils aident les immigrés sans papier à trouver un logement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre du maintien de l'ordre et de la pacification. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas parler de lutte des classes. On peut dire que les gens du CREA, ils sont dans toute la tradition anarchiste, même pas anarchiste traditionnelle, mais anarchiste innovante. Il est bien évident que tôt ou tard, si ça faisait école, si tout le monde commençait à se dire, pour trouver un logement, on va occuper les logements vides, il y en a un gros paquet à Toulouse de logements vides, vous le savez comme moi.
Oui, il y en a 2000 rien que pour les publics.
Spéculatifs d'ailleurs. Eh bien, ça serait déjà, on serait dans un processus révolutionnaire, hein, faut pas se,
faut pas fleurer. Mais alors, Jean-Pierre, dans ce cas-là, si les coopératives, soit elles sont acceptées, et dans ce cas-là, c'est du vernis de la politique métropolitaine. Attends, soit elles sont refusées et donc expulsées systématiquement. Mais dans ce cas-là, je te repose la question, comme le disait le camarade Vladimir Ilitch Ulianov, que faire ?
Ben oui, c'est justement, on se la pose tous. Moi, j'ai une amie actuellement, là, il y a un ouvrage que je vous conseille. Ça ne concerne pas Toulouse, mais Paris, qui s'appelle Anne Clerval, une jeune géographe. Elle a fait un ouvrage qui, à partir de sa thèse, mais elle l'a désuniversitarisé, et qui s'appelle Paris sans le peuple. Et c'est une très bonne analyse de ce qui est en train de se passer à Paris et dans la proche banlieue, ex-banlieue rouge, qui devient une banlieue rosâtre et verdâtre, avec évidemment les bobos qui arrivent, hein, les gentrifieurs, comme on dit en pseudo-langage scientifique. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que pour lutter contre la gentrification, on peut effectivement, c'est ce qui se fait, multiplier les squats. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est pour ça que tout à l'heure je tenais à faire la distinction, vous avez des squats dits de précarité. Ce sont des gens qui, pour ne pas se retirer à la rue, sans aucun engagement politique concret, ils occupent le logement et point. Vous savez combien il y a de squats ? À ce moment-là, on pourrait dire que c'est la Révolution à Paris. En région parisienne, il y a environ 2000 squats. Mais la quasi-totalité de ces squats sont des squats clandestins. C'est-à-dire que, alors évidemment, dès qu'on a besoin d'une opération de rénovation, la police intervient, on expulse. Mais les squats politiques, ceux qui combinent, et quand ils font des activités artistiques, c'est justement pour populariser les luttes. Hein, il y en a un, par exemple, très connu maintenant à Ivry, il s'appelle Dilango, peu importe le nom. Vous en avez un autre, deux autres ou trois à Montreuil, vous en avez un à Saint-Denis. Mais ce sont des squats emblématiques. Et les municipalités, qu'elles soient de gauche ou de droite, et là c'est des municipalités de gauche, entre guillemets, Front de Gauche même, hein, Parti communiste, eh bien, quand il faut s'en débarrasser, ils s'en débarrassent. Un squat politique, c'est un squat qui donne le mauvais exemple, qui donne l'idée aux habitants qu'ils pourraient résoudre par eux-mêmes leurs problèmes, mais ça veut dire qu'il y a affrontement. Affrontement par rapport aux logiques des promoteurs, des constructeurs, des banques, etc. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un contexte de lutte des classes. La lutte des classes, c'est pas moi qui l'invente, c'est que les intérêts des différentes couches sociales ne sont pas compatibles et que pour l'instant, évidemment, vous l'avez dit, nous sommes dans une conjoncture qui dure depuis bien longtemps où la bourgeoisie est à l'offensive sur tous les fronts, sur le front urbain comme ailleurs, et la métropolisation est une des manifestations de cette offensive. Hein.
Bah merci.
On va polariser l'essentiel du développement urbain au service des élites, bourgeoisie, petite bourgeoisie intellectuelle, avec le rejet vers la périphérie, de plus en plus éloignée des classes populaires. Effectivement, les villes proches des métropoles, certaines servent de banlieue dortoir, si on peut dire, aux gens qui travaillent dans la métropole. C'est pour ça qu'elles gonflent.
Jean-Pierre.
Ces villes, parce que les gens ne peuvent pas se loger, ça devient de plus en plus cher.
Jean-Pierre.
Agglomérations, et ils vont trouver des logements moins chers en périphérie.
Jean-Pierre, il va falloir qu'on conclue, on va devoir rendre l'antenne parce qu'il est
8h05.
Mais merci de ta contribution. Je vais laisser le mot de la fin à Philippe, ça te dérange pas. et assez court, si tu peux, Philippe.
Oui, mais je suis d'accord avec Jean-Pierre, on se connaît depuis longtemps, et phénomène nouveau qui apparaît avec cette exclusion, et en fait cette mainmise de la bourgeoisie dans les centres-villes, c'est le périurbain. Nous, on s'appuie sur l'étude d'un sociologue qui s'appelle Éric Chauvier, que tu dois connaître, Jean-Pierre, qui est à Bordeaux, et qui travaille sur ce phénomène de périurbanisation, et de ce que Télérama a appelé au mois de décembre les nouveaux lieux moches, ou les nouveaux lieux de relégation. Voilà, c'est un article extrêmement intéressant à consulter, je pense. Et puis voilà, hein, pour finir sur le numéro, c'est qu'on parle évidemment de la ville en transition, de la ville intelligente, du pic du pétrole, de la place de la nature. On s'aperçoit que vraiment la gestion de ces centres urbains, de ces municipalités ou métropoles est un casse tête pour les politiques auxquelles, je pense, les citoyens ne répondent pas aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir hein, les taux de participation aux élections.
Bon, bah, Jean-Pierre, je suis désolé, il va falloir qu'on rende l'antenne. Désolé, c'est une heure, c'est du direct et on n'a jamais assez le temps.
Il est 8h05 passé.
Voilà, les copains ont accepté de déborder un petit peu. Merci de ta participation. On te réinvitera à l'occasion quand on aura plus de temps. En tout cas, on sait qu'on a des émissions très très riches.
Quand j'irai à Toulouse, là.
Ah bah écoute, tu es le bienvenu à la radio. Merci Philippe Gagnebé mais à tous les auditeurs de nous avoir suivis durant cette émission. On laisse la place aux copains de la Centrifugeuse et puis on se quitte avec les Fabulous Troubadours, ma ville est le plus beau parc. Bonne soirée sur Canal Sud.
J'ai visité Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland. Plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Des manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Le bus, le train, l'escalator, du métro, des mégastores. Des spectacles, il y en a plein, la vie de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau regard, d'une nouvelle attention. Et ta ville devient ce parc où mille et une attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêve ce parc et passe aux réalisations.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
quelle est ton ambition?
Des aventures tu en vivras en reality rama. Si tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent, les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateur. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc ni zapper sa population.